Gattuso, Seedorf, Nesta et Inzaghi, avec qui il remporte le dernier titre de champion d'Italie du club en 2011. En 7 ans, Zlatan Ibrahimovic a bien changé. Le club où il revient aussi, englué à la 11e place du championnat italien, est plus qualifié pour la Ligue des Champions depuis 2014. Milan, où le phénix Ibrahimovic et ses 33 titres en club espèrent renaître de ses cendres, dans un pays où les vieilles gloires font une cure de jouvence, à l'image de Cristiano Ronaldo, 35 ans en février, et dans une moindre mesure Gianluigi Buffon, 41 ans, toujours performant avec la Juventus.
Voilà, et c'est la fin de ce journal. Restez avec nous, l'info continue sur la radio du Monde.
Radio G, 101.5 FM.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie. Au début du XXe siècle,
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5, intitulé « Où bourreaux et victimes en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé «
Assise près de l'incubateur ». Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Ce sont des histoires d'amour, sous forme de nouvelles russes, que nous allons lire. La passion, la démesure sont donc au rendez-vous. Sylvain Tesson connaît bien cet immense pays et en décrit les beautés avec lyrisme et les travers avec ironie. Il pratique dans ses nouvelles l'art de la chute, qui nous laisse à la fois surpris et parfois horrifiés par une humanité si peu humaine. Sa formation de géographe et de journaliste lui a permis de parcourir le monde, d'aiguiser son regard sans complaisance sur la nature des hommes. La première nouvelle s'intitule « L'honneur en morceaux ». De quel honneur s'agit-il? Et quels en sont les morceaux? Écoutez.
L'honneur en morceaux. Il faisait une fête terrible. Le village s'appelait Semov. Des baraques potagères sur le bord de la mer Noire. C'était une région de Cosaques, le territoire de l'une de ces peuplades de plaine qui avait alimenté les rangs de la contre-révolution. On avait dit à l'époque qu'ils étaient des fidèles du tsar. Mais ce n'était pas par fidélité qu'ils s'étaient battus. En réalité, ils ne voulaient pas de troubles dans la région. Ils subissaient le joug des seigneurs, mais ils savaient que les commissaires du peuple leur imposeraient une autre tyrannie. Or, ils ne voyaient pas l'intérêt de briser leurs chaînes pour en recevoir de nouvelles. Les esclaves ont horreur du changement. Il y avait les patates à récolter dans les champs, et ils avaient combattu pour avoir la paix. Et ils étaient devenus une légende. 80 ans plus tard, dans une ferme située à l'orée du village, on ossait. On mariait Tatiana, fille d'un paysan, à Sergueï, artisan électricien. Sibiakine, le père de la mariée, sabrait des bouteilles sans discontinuer. Dans le comportement des peuples du Grand Est, il semble y avoir une rémanence des libations antiques au cours desquels on versait sur le sol quelques gouttes d'un breuvage en l'honneur des dieux domestiques. Dans leur aimable violence, Ukrainiens et Russes s'appliquent toujours à répandre à terre un peu du contenu des bouteilles qu'ils entreprennent. « Celle-là, on va la mettre à mort !» hurla Sibiakine en décapitant un goulot. Il voulait qu'on se souvînt de cette fête comme de la plus grande soûlerie jamais organisée dans le bassin du Dniepr. Une planche était suspendue à l'entrée de la grange. On désirait rentrer ? Il fallait s'y asseoir et se balancer une ou deux fois. On pouvait alors gagner les bancs qui flanquaient la table aux victuailles, charniers de grasse nourriture paysanne, accumulés pendant toute une saison, en prévision de l'indigestion collective du mariage. 3 mois de privation dans la perspective de se rendre malade. Ces moudjiks entretenaient avec la nourriture une relation de vagabond, jamais rassasié, mais basculant brutalement des rigueurs de la disette dans les excès des bombances. Constantin, assis au bout d'un banc, à l'écart des corps gluants de ses voisins en sueur, regardait les plats de charcuterie avec dégoût. Il vivait à Moscou, où il dirigeait une compagnie d'assurance. C'était l'un de ces Novosritchis, fils de la campagne, qui s'était rué à la ville lors du naufrage de l'Union pour faire fortune dans les affaires. Il avait coupé ses racines paysannes comme on arrache un chien dent. « La terre pue !» s'était-il dit en découvrant Moscou, brillante dans la nuit fiévreuse. Et à 2 heures du matin, dans une boîte branchée, il s'était rappelé, putes au bras, bouteilles à la main, qu'à la campagne, on était déjà couché depuis 8 heures du soir alors que la nuit commençait pour lui. Il avait visité Minsk, Varsovie, puis Berlin, Francfort et Genève. Il progressait vers l'ouest au fur et à mesure que ses affaires florissaient, bientôt Londres et Paris. Puis l'Atlantique tomberait et il verrait New York, Los Angeles et le Japon. Un méridien gagné à chaque contrat signé. Il essaya de se rappeler sa dernière visite au village. Ce devait être pour l'enterrement de son oncle, chef de la conserverie de poissons, qui était mort de froid en se laissant enfermer dans une chambre de congélation par un ouvrier saoul. Quelques mois auparavant, il y avait eu le baptême d'un neveu, et puis il avait assisté aussi à la fête donnée en l'honneur de son cousin qui était passé second maître dans les sous-mariniers de Mourmansk. Et à présent, c'était Tatiana qui se mariait, sa petite sœur. Finalement, la vie de famille se réduisait pour lui à une série de cérémonies, de sacrements, de fêtes qui s'enchaînaient avec la même régularité ennuyeuse que les saisons. Il s'acquittait de ses obligations car il savait qu'on ne lui aurait jamais pardonné d'ajouter à l'injure d'avoir quitté le pays l'insulte de n'y pas revenir de temps en temps pour célébrer les dates importantes du calendrier familial. À chaque visite, le plus compliqué était de quitter Moscou. Il devait imaginer un nouveau prétexte pour s'absenter quelques jours, inventer des explications plausibles, négociations lointaines, visites professionnelles, colloques internationaux, pour fuir son bureau sans que ni Natacha, sa secrétaire aux yeux mauves, ni Pavel, son associé à 49%, ni Ivan, à qui il avait donné quelque part de la société et qui lui fournissait de la belle héroïne afghane pour ses soirées strass et paillettes, se doutassent une seule seconde qu'il prenait en réalité l'avion pour Kiev, puis le train pour Zaporizhia, où il embarquait sur un bateau qui descendait le long du Dniepr et le déposait à la gare fluviale de Nikopol, où son père venait le chercher dans une Volga blanche des années rouges. Mener cette double vie, un pied dans le luxe de Moscou technoïde et l'autre dans le champ de carottes de son enfance crottée, l'épuisait. Et puis, il y avait ce Sergueï qui le préoccupait. Le « marié », comme on l'appelait dans le village. Constantin ne se faisait pas à l'idée que sa sœur eût choisi d'épouser un électricien. À plusieurs reprises, il avait offert à Tatiana de venir le rejoindre à Moscou. Il lui avait promis un poste d'assistante de direction dans son propre établissement. Elle aurait goûté aux saveurs de la capitale. Pourquoi épouser un artisan bouseux, produit des amours d'un paysan calleux et d'une ménagère, diminué par les années et les moissons? Et alors, le capitaliste, au bout de la charcuterie ? ce qu'ils craignaient depuis le début de la noce, arrivait. On avait repéré qu'ils se cachaient pour échapper aux soins des saindoux, à la râpe des vodkas et à l'étreinte alcoolique des tantes obèses. Mais Sibiakine ne l'avait pas oublié. « Tu snobes les cochonailles ?» Parlait-il du tas de salamis perlés de graisse qui s'étalait sur un plateau, ou des femmes énormes qui faisaient ployer les bancs de bois sous leur poids ?« Ils sont capables de me casser la gueule, ces rustos-là » pensa-t-il. Il haussa les épaules et regarda sa sœur. Tatiana se déhanchait pour mieux boire dans sa chaussure à talons qu'on avait remplie de mousseux. Il se demandait comment une race pouvait produire à la fois de si belles filles et des vieillardes édentées et géniardes. Puisque tu vas faire du chemin avec elle, bois à ton tour dans le soulier, beau fils, dit Sibiakine en tendant la chaussure à Sergueï. Le petit électricien renversa du mousseux sur sa chemise. Il était perturbé par le grésillement d'une des guirlandes qui encadrait le porche d'entrée de la grange. C'était lui qui avait travaillé à l'installation électrique et il voyait dans le court-circuit un sombre présage en même temps qu'une mauvaise publicité faite à ses compétences. On ne lui laissa pas le temps de se tourner les sangs. Tatiana lui offrit ses lèvres et Sibiakine lui colla une tape dans le dos. Allégorie du mariage. Il était pris, comme dans un étau, entre le père et la fille, le baiser et la bourrade. Comment a-t-elle pu s'enticher de cet apprenti, marmonnait Constantin. Quand je pense que Volodia voulait l'épouser. Ce soir, elle serait la femme du directeur de l'aéroport de Moscou. Toute la vie en voyage. La première classe pour les États-Unis. Mais non, mademoiselle choisit de s'enterrer avec un demi-abruti qui vissera des ampoules toute sa vie dans des fermes où l'on éteint les feux à 8h du soir. Il sortit. Les flonflons de l'accordéon l'agaçaient. Il se dirigea vers le potager. Des convives allaient et venaient à travers le jardin pour se soulager dans la cabane de planches adossée à la haie. Les potagers de l'ex-Union soviétique devaient leur prospérité à la purge familiale. Le fameux Tchernosium, le sol noir d'Ukraine, n'est jamais que le réceptacle de siècles d'orgies et de fêtes. Constantin, qui portait des chaussures italiennes, eut tout à coup la désagréable impression qu'il marchait sur du fumier. Il regagna la grange. L'atmosphère lui était hostile. Quand il passait entre les rangées d'invités, il sentait les regards mêlés d'envie et de mépris posés sur son costume, sa montre de pilote et sa chevelure laquée. Il payait pour avoir trahi son destin, pour avoir préféré aux hivers des campagnes cosaques les feux des capitales. Ici, on n'aimait pas les aventuriers du capitalisme. Il suffisait qu'un pauvre bougre du village décida, pour gagner quelques roubles, de vendre une pastèque au-dessus du prix du marché pour qu'on lui crache aux pieds en le traitant de spéculateur. Il avait l'impression d'être un renégat venu s'exhiber dans ses habits d'infamie, lâché dans la fosse au juste. Même Sibiakine, son propre père, qui avait essayé de plaisanter avec lui au début des réjouissances, le négligeait à présent, manifestant son aversion par de l'indifférence. Une jeune fille aux yeux bleus et bridés lui demanda avec ironie si elle pouvait toucher ses mains, car elle n'en avait jamais vu de si blanches et de si lisses. Il se jura de ne plus jamais remettre les pieds à ces fêtes aux allures de procès. Sergueï, qui n'était pas habitué à veiller, piquait du nez sur son jabot, abruti d'alcool, de sommeil et de bruit. « Voilà bien un cosaque !» dit Constantin à haute voix, « dormant à l'heure des poules le jour de sa noce !» Et il pensa aux abîmes d'ennui dans lesquels s'apprêtait à s'embourber sa petite sœur. Plus que du dédain, il éprouvait de la haine, la pire de toutes, celle qu'on voue à ses pères quand on les a reniés. « À présent, les cadeaux !» annonça Sibiakine en faisant taire l'assemblée. Constantin se rappela qu'il avait laissé son paquet dans sa voiture garée devant la ferme. Il avait eu une mésaventure en achetant le cadeau de Tatiana. Comme elle aimait les fleurs et qu'elle collectionnait les bibelots d'Orient, il avait voulu lui offrir un vase chinois. Il était allé chez Nikolai Bakouchin, un antiquaire de l'Arbat, à Moscou, et avait déniché un vase adorné d'un tel grouillis de dragons criards et de dégoulinades végétales qu'on ne pouvait pas douter de sa provenance. Mais alors qu'il le saisissait pour l'examiner, le vase, plus lourd qu'il ne l'avait pensé, lui avait échappé des mains et s'était brisé à terre. Le marchand avait paru tellement consterné que Constantin avait eu honte. « Bien entendu, je vous paierai. »« Il ne s'agit pas de ça, » avait répondu Bakouchin. « Ce vase, c'était l'une des 10 pièces qui fut offerte en cadeau de mariage par la princesse Wuxan au roi du Tibet Lapsang II. » Ce qui veut dire qu'il avait 12 siècles d'âge et que c'était la pièce maîtresse de mon magasin. Rendez-vous compte, les autres originaux sont exposés dans des musées. » Constantin avait soupçonné le marchand d'exagérer, mais quand l'antiquaire avait exhibé les documents officiels qui authentifiaient le vase comme une pièce antique, il avait capitulé. Restait à savoir combien allait réclamer cet antiquaire qui disposait ses objets dans des équilibres précaires à la seule fin peut-être que ses clients les brisent. Bakouchin avait demandé un prix exorbitant qu'ils négocièrent longuement. Constantin aurait pu acheter le magasin d'une seule signature, mais il avait trop de fierté et une trop haute opinion de son statut de businessman pour se laisser abuser comme un vulgaire moujik. Il avait épuisé Bakouchin sous les mêmes flots d'arguments qu'il déversait lors de ses conseils d'administration. Ils étaient finalement arrivés à un accord. Constantin avait payé. Vexé de la mésaventure, il ne pensait qu'à quitter les lieux au plus vite pour retrouver Natacha qui l'attendait au Boston Club. Une idée lui était venue alors qu'il franchissait la porte. Nikolai Bakouchin, avait-il dit en revenant sur ses pas, pourriez-vous me donner les morceaux? Je vais les emporter finalement. Vous n'arriverez jamais à les recoller correctement. Aucune importance, laissez-les-moi. Un souvenir. Le marchand avait disparu dans l'arrière-boutique et était revenu avec un paquet volumineux protégé par des feuilles de journal. Un à un, les invités se pressaient devant les époux et tendaient leurs présents. Sergueï et Tatiana reçurent un séparateur à crème, une lampe tempête biélorusse, un portrait brodé de Pushkin, une trousse de maréchalerie, une pompe à pied avec différentes valves, des bougies neuves de motocyclettes allemandes. Constantin s'avança le dernier. Il offrit son paquet à Sergueï, mais s'arrangea pour le lâcher discrètement avant que le jeune homme ait pu s'en saisir. Toute l'assistance rivée à la scène, avide de savoir ce que le grand frère dans les affaires rapportait de Moscou, crut que le marié avait fait tomber le paquet par maladresse. « C'est l'émotion, » murmura une grosse dame. « Quelle ours catastrophe! Un vase de Chine en porcelaine! Une antiquité !» gémit Constantin. « Chère pauvre petite sœur, je t'en ferai parvenir un autre. » Tatiana pâlit. Sergueï balbutia. On jetait aux mariés des regards réprobateurs. « Ouvrons-le quand même. On pourra peut-être faire quelque chose des morceaux, » suggéra Tatiana. Elle s'attaqua aux couches de papier, pelant d'abord le beau crépon soyeux et satiné, attaquant ensuite les feuilles de journal. 100 personnes tenues en haleine fixaient ses mains qui s'affairaient à déshabiller le paquet. Un murmure s'éleva. « Tatiana ?» poussa un couinement d'oiseau incrédule. Constantin sentit son sang quitter son cœur. Le marchand Bakouchin avait enveloppé chaque morceau du vase, séparément. Thank you. évidence. C'est le titre de la deuxième nouvelle que nous avons choisi de vous lire.
Enfer ! Oleg se redresse sur son lit. Il se passe la main dans les cheveux. Et comment ai-je pu attendre ? Suis-je fou ? On le croirait sorti d'un cauchemar, alors qu'au contraire, c'est une immense lumière en son âme qui l'a réveillé brutalement. Il se lève, il est debout, il s'habille, fébrile, comme si la police était à sa porte. La chambre n'existe plus, ni le lit, ni plus rien, ni surtout la nuit qui s'efface devant l'illumination. Il jette une veste sur ses épaules, il attrape son fusil, et il ouvre la porte d'un coup de pied, blanc. Il plonge dans la nuit gelée. Le grésil n'a aucune chance de l'atteindre. Trop de chaleur, en lui, irrigue son sang. Trop de lumière interdit à la nuit d'être un obstacle. Trop de fièvre empêche l'horrible hiver sibérien d'arrêter ses pas. Ses pas. Combien devra-t-il en aligner pour rejoindre Moscou ? Il ne compte pas. Ce ne sont pas ses jambes qui le portent. C'est la révélation. La certitude qui l'aiguillonne, la limpide route qui s'est ouverte au profond de lui l'aspire et commande à ses pieds une course inconsciente. Combien de semaines durera cet état de grâce ? Les jours s'en vont. Il est indestructible. Pas la moindre faiblesse. Pas le plus petit signe de fatigue. Le corps n'ose pas trahir. Tant que son cœur bat, ses pieds avancent. Les kilomètres s'abattent. Heure après heure. Aller loin, ce n'est pas aller vite, c'est aller longtemps avec la détermination de David devant le Goliath des immensités. Et que pèse 6000 km devant une volonté ? La trace de ses pas dans la neige est une ligne implacable qui s'étire sans répit vers l'ouest. Le soleil tourne autour de la terre, Oleg se sent un astre. Il se précipite lui aussi vers les crépuscules. Il va vers la nuit. Il fuit les aubes qui meurent dans son dos. Ce qu'il a saisi lors de cette nuit de magie a aboli la nuit. Il marche sans discontinuer, sous la lune quand elle est là, sous les nuages quand il la cache, dans le noir quand la nuit est seule. À l'aube, au mi-temps du jour, le soir, il marche. Forêt, marais, collines, il marche. Brouillard, vent, gel, il marche. Lundi et mercredi et dimanche, il marche. Le filet de fumée d'une cheminée, le galbe d'un clocher à bulbe, un arbre dans son champ, seul comme un phare, il marche. Des outardes, des chiens errants, un pauvre petit lapin, il marche. Irkoutsk, Tomsk, Kazan, il marche. Arrête-toi, camarade! Le samovar fume! Je n'ai pas le temps! Je suis un train, une flèche, un cheval. Ce qu'il connaît, ce qu'il sait, ce qu'il a saisi et qui vit dans les profondeurs de son ventre lui interdit la moindre halte. Il bat la cadence. Un pas, un pas, un pas. Jamais de dernier pas. Un pas, un deuxième pas, un autre pas. Si un pas est possible, un autre pas se peut. Si une seconde passe, une autre peut venir. Et si une verste tombe, une autre peut mourir, et ainsi s'avale la route, pauvre petit ruban de poussière qui croit à sa grandeur. Elle s'épuise sous son pas, elle est battue par sa semelle comme une triste vaincue, elle capitule. Il rencontre des embûches. Imaginerait-on traverser l'Eurasie sans le moindre tracas ? Un ours l'effraie un soir. Deux criminels tentent en vain de le rattraper pour lui faire la peau. Il se blesse en dévalant un talus rocheux. Pauvre broutille, il écrase tout cela comme on marche sur du fagot dans la ramée. Un pas, un pas, un pas, vous savez bien. La géographie vient à lui et se présente. Voilà Meringa, voilà Spasskoï et voilà la Volga et Perm, et la forêt de Sarapoul qu'on voit poindre, et les fumées de Saransk qui font un panache sur la plaine, et à présent Riazan. On approche. Des pas. Des pas, autant de pas. Les semelles s'usent, les bottes lâchent, les talons saignent, les pieds souffrent, les pas s'en moquent. Depuis quand a-t-on besoin de ces pieds pour avancer ?
Il mange ce que ses bras peuvent cueillir de part et d'autre du chemin. Des racines dans un champ, une patate dans une remise, le sein doux qu'une vieille lui tend et la bonne nourriture immédiatement se transforme en force et en une nouvelle salve de pas pour gagner du terrain vers une autre pomme, vers un autre chapon de fortune. Tout s'incline devant lui. L'hiver qui a vaincu l'armée de France, le vent qui repousse les attelages, la boue qui engloutit les imprudents, l'immensité qui décourage les braves, et il finit un matin par arriver à Moscou. Il rentre par les faubourgs pleins de fumée. Ses bottes frappent à présent le ciment des chaussées. Il sait où il va. Il est aimanté depuis qu'il a quitté la cabane. Il s'engouffre dans la rue Victor Hugo. Il s'arrête au numéro 8. Il embrasse la babouchka qui garde le porche. Il monte deux étages. Il frappe à une porte. Oksana ouvre. Elle est effrayée. De quoi a-t-il l'air, couvert de haillons et de fourrures, avec son air d'outre-temps ? Il pue ? Il semble surgir de chez les morts. Un squelette hagard qui vient d'avaler à la force de ses os un continent entier. Mais ses yeux sont deux diamants. « Toi, Oleg ? » balbutie-t-elle. « Je t'aime. Je suis venu te dire que je t'aime. »
Si vous avez pris plaisir à écouter ces courts récits, la lecture du recueil « Vérification de la porte opposée » publié aux éditions Phébus en 2010 vous plaira certainement. Sylvain Tesson a remporté le Goncourt de la nouvelle en 2009 en publiant « Une vie à coucher dehors ». L'auteur excelle en effet à camper des personnages, à saisir des tranches de vie et à travers l'anecdote à nous faire réfléchir sur notre difficulté à nous accommoder de notre vie, tout cela avec humour et élégance.
Cette émission a été préparée et lue par
Marie Béraille,
Anne Prono.
À la technique étaient Vincent Blanc et Claude-Michel Pugna.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
Vous aimez Radio G ? Soutenez-la. En faisant un don à notre association reconnue d'intérêt général, vous contribuerez à son développement et à la réalisation de ses nombreux projets culturels, radiophoniques et d'éducation aux médias. Radio G compte sur vous. Rendez-vous sur radio-g.fr dans la rubrique « Faire un don ». Votre participation sera déductible de vos impôts. Alors, n'hésitez plus.
Le sens du travail. Une émission qui parle du travail. De ceux qui travaillent, de ceux qui cherchent à travailler. À quoi ça sert de travailler ? Témoignages, lectures, musique. Qu'est-ce qui se joue en nous lorsque nous nous mettons au travail ? Le sens du travail, une émission présentée par Angèle, Pascal et Sonia, un jeudi sur deux, à 13h, sur Radio G 101.5 FM.
voices, your madness keeping me, and they agree. Your voices, your madness keeping me, and they agree. Check mine so easily.
Radio G, www.radio-g.fr.
Sa peine